Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Ornella, bienvenue sur Malabar.
Bonjour, ça va?
Alors Ornella, on a discuté un tout petit peu en amont pour se présenter. Je t'avoue que je n'ai pas posé plus de questions parce que j'en ai déjà plein. Et je pense que c'est toujours mieux quand tu les dis en direct plutôt que quand on les a préparées. Est-ce que d'abord tu peux te présenter aux auditeurs, nous dire qui tu es, où est-ce que tu vis, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Oui, alors je m'appelle Ornella Dechaine, j'ai 25 ans, je suis d'origine italienne, chinoise et malgache. Je suis née et j'ai grandi à Madagascar, j'y réside actuellement. Je suis à la tête d'une entreprise sociale qui s'appelle Water Yourself, que j'ai fondée en 2021, qui œuvre dans le secteur de la santé mentale. Je suis également storyteller et scénariste, vraiment passionnée de l'art, de tout ce qui est création et du cinéma. Et je suis également styliste à mes heures perdues.
Waouh! Alors là, ça fait un long, long, long et beau parcours. Déjà, bravo! Alors déjà, je voudrais revenir sur tes origines. C'est un mélange dont je n'avais jamais entendu parler. Chinoise, italienne, malgache. Et tu vis à Mada. Tu as toujours vécu à Mada?
Oui, j'ai toujours vécu à Mada.
Et tu as baigné dans quelle culture? Est-ce que tu as aussi été familiarisée avec la culture chinoise, italienne, ou tu as toujours baigné dans la culture malgache du coup?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère est d'origine italienne et malgache, et mon père est d'origine chinoise et malgache. C'est pour ça que ça fait ce gros melting pot d'origine. La plupart des membres de la famille de ma mère, par exemple, ceux qui sont en Italie, on n'a pas vraiment eu la chance de les côtoyer au quotidien. Alors, je dirais que je n'ai pas vraiment vécu dans la culture italienne, mais par contre, la culture chinoise, la famille de mon père, qui est à Madagascar, ont vraiment tendance à respecter cette culture-là, que ce soit les bonnes années chinoises, les fêtes chinoises et tout ça. Alors moi et ma sœur, on a vraiment pu côtoyer cette culture-là, baigner dans cette culture-là, mais surtout également la culture malgache. Il faut savoir que ma mère vient de Diego, mon père vient de Tamataf, et c'est encore très multiculturel, encore une fois. Mais je dirais que j'ai pu goûter, que ce soit à la cuisine, aux traditions de ces différentes origines.
D'accord, d'accord. Non, mais c'est bien, ça t'apporte une richesse culturelle et peut-être que c'est pour ça aussi que tu as ce parcours si riche. Alors déjà, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours parce que avant de parler de Water Yourself, j'aimerais parler de ton côté styliste, création. Je pense que c'est quelque chose, ce côté artistique. Déjà, quelles études tu as fait? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours scolaire pour qu'on puisse après comprendre qu'est-ce qui t'a fait aller dans le côté créatif de ton expérience?
Alors moi, mes études après le bac, j'ai fait des études de droit. J'étais surtout influencée par la société. J'étais perdue vraiment après le bac. Je ne savais pas quoi faire. Je suis passée des études de droit à faire des études de création parce que le droit, ça ne me parlait pas du tout. J'ai étudié dans des écoles d'art en ligne. Et c'est seulement après que je me suis familiarisée avec tout ce qui est storytelling, tout ce qui est création et stylisme. En fait, c'était surtout une passion. Je ne pensais pas que ça, j'allais en faire un métier. Déjà, mais c'était une passion au tout début que je faisais pas du tout, même pas à plein temps. Hein. Mais puis quelqu'un m'a découvert mes dessins, découvert mes croquis et s'est dit, est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Et j'ai été salariée pour une entreprise qui œuvre dans le textile pendant une certaine période pour devenir à mon compte après cela.
Et toi, tu dessinais quel si tu nous parlais un peu de tes créations, qu'est-ce que tu dessinais, quelles étaient tes inspirations, de quoi est-ce que tu rêvais avant d'avoir cette première expérience, avant de te faire remarquer?
Je dessinais surtout des petits doodles. Je faisais pas de croquis de mode. Je faisais pas de tout ce qui est dans le luxe ou quoi que ce soit. Mais je faisais des dessins de personnes, de croquis de personnes et de petits doodles. C'était surtout ça mon inspiration. Et j'étais vraiment surtout inspirée par les femmes malgaches. À une époque, je faisais des croquis et des dessins. Caractérisant les différentes formes, les différentes couleurs, les différentes caractéristiques de la femme malgache. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a permis après d'être découverte, parce qu'à une certaine époque, j'étais vraiment très active sur les réseaux à partager mes dessins.
Et quand tu dis la femme malgache, ça, si par exemple tu devais nous la décrire, nous en parler, comment tu l'as dessinée, toi, la femme malgache?
Oh, c'est une question compliquée parce que comment pourrais-je décrire la femme malgache avec des mots à partir des dessins que j'ai faits?
Est-ce que
Ben,
déjà elle
qu'est-ce que
était de
tu
couleur? Est-ce qu'elle avait les cheveux
veux dire?
longs? Est-ce qu'elle était formée, peu formée?
Elle est tout ça en fait, vu que à Madagascar, on sait qu'on est un mélange d'origines. La femme malgache, c'est tout ça. C'est une différence de couleur, différence de texture, différence de peau. Quand tu vas, par exemple, à l'étranger, que tu montres des photos de femmes malgaches, les gens se demandent souvent comment ça se fait que vous ne vous ressemblez pas trop. Il y en a qui sont un peu plus basanés. Il y en a qui sont un peu avec des cheveux lisses, des cheveux crépus et tout ça. C'est ça, c'est vraiment ce mélange de culture, ce mélange d'origine.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Justement, on en avait parlé avec Geoffrey qui était passé sur le podcast sur l'histoire de Mada. Et exactement ce que je lui avais dit, c'était il suffit en fait de prendre des gens de ta famille, tes frères et sœurs, tes cousins, cousines, et peut-être plus marquant chez les filles, je ne sais pas, mais de regarder en fait, comme tu disais, le type de cheveux, la couleur, les yeux bridés, pas bridés. Moi, je sais que régulièrement, on me dit que je ressemble plus à une indienne parce que j'ai les cheveux plutôt longs, lisses, j'ai un visage plutôt en ovale. Enfin, voilà, j'ai des traits plutôt d'indienne, alors que je peux avoir d'autres cousines où on va dire c'est plus asiatique. En fait, c'est vraiment, comme tu dis, ça dépend vraiment. Donc, en fait, c'est pas la femme malgache, c'est les femmes malgaches, si je comprends bien.
Oui,
Et donc, du coup, c'est un mélange de tout ça, mais c'est super d'avoir déjà pris les femmes malgaches en tant qu'inspiration, en tant que modèle, c'est top. Et donc, du coup, tu travailles 6 mois avec cette entreprise. Après, tu te lances à ton compte. Comment ça s'est passé cette expérience d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur? Comment tu as vécu ces presque 3 ans maintenant aujourd'hui d'entrepreneuriat?
Après avoir reçu mon bac, je savais déjà que je voulais être entrepreneur depuis longtemps, mais je ne savais pas dans quel domaine, qu'est-ce que j'allais faire, comment. J'avais aucune, mais vraiment aucune connaissance de ce qu'était l'entrepreneuriat, mais je pensais juste que ce serait cool. Et après avoir eu mon expérience en tant que salarié, je me suis rendu compte que le salariat, ce n'était pas pour moi. Et il n'y a rien de mal à être salarié, mais c'est juste que c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Alors, même en tant que salarié et avant ça, j'ai commencé à prendre des études, à faire des études dans le monde du business et de l'entrepreneuriat, et particulièrement dans l'entrepreneuriat social, dans les secteurs dont je travaille actuellement. Et au début, oui, c'était difficile parce que on a tous besoin de ce sentiment de sécurité, d'avoir un revenu fixe tous les mois. Mais j'ai eu la chance d'avoir été soutenue par des programmes d'entrepreneurs africains, d'entrepreneurs africains qui m'ont lancée, je dirais, dans cette aventure et qui m'ont aidée jusqu'à aujourd'hui même à maintenir le flow.
Et donc aujourd'hui, tu continues à faire fashion designer, toi à ton compte, c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui pour des marques, pour c'est qui tes clients?
Oui, en fait, j'en fais encore. Ça dépend vraiment de mon emploi du temps et du type de personne, du type de client qui vient m'approcher parce que j'ai pas vraiment beaucoup le temps, mais ça dépend vraiment de la valeur et des choses qu'ils veulent apporter. Par exemple, j'aime bien travailler avec les marques qui font du upcycling, qui font du recyclage. J'aime bien créer à partir des choses qui existent déjà et travailler et en faire des choses nouvelles.
Et donc, tu sélectionnes un peu tes clients. Est-ce que c'est toi qui vas les prospecter? Tu fais du démarchage ou alors c'est eux qui viennent aujourd'hui? Tu as assez de notoriété pour que ce soit les marques qui viennent à toi.
Ce sont les marques qui viennent à moi.
Et ce sont des marques basées à Mada, des marques malgaches où tu as de tout et c'est un peu partout sur le globe ou est-ce que toi, tu te fixes des limites?
Je dirais que c'est pas aussi vaste que ça. C'est surtout les marques malgaches ou les marques malgaches qui appartiennent à des étrangers.
D'accord. Et donc du coup, toi, tu es toute seule pour tout ça, ou tu as maintenant quelqu'un avec toi qui t'assiste dans ces missions?
Alors, en termes de stylisme, je suis toute seule, mais je travaille souvent avec des ateliers et des personnes aussi compétentes dans le domaine.
D'accord, super. Et le côté, voilà, moi, le côté mode et tout ça, j'y connais pas grand-chose, donc je vais peut-être te poser des questions un peu bizarres. Mais toi, par exemple, comment tu t'inspires tous les jours parce que ça, c'est un métier hyper créatif. Tu as besoin de te renouveler, c'est un peu comme des collections, on va dire. Toi, tes inspirations en termes de créativité, de mode ou voilà vraiment qui te permettent de te dire voilà bah ça en écoutant ça, en voyant ça, je sais pas, en touchant ça m'inspire. Comment tu fais pour continuellement trouver de l'inspiration?
Je dirais que la réponse à ça, de mon côté, c'est que je bouge. Je bouge beaucoup. Des fois, quand je cherche l'inspiration, quand on me donne un thème, par exemple, le jean ou le wax, quelque chose comme ça, j'essaie de bouger, de voir déjà qu'est-ce qui pourrait m'inspirer à l'extérieur. Et
En
c'est aussi
magasin
une des raisons. Non, pas
ou
au magasin, mais vraiment dans la nature, avec les
d'accord.
gens. Oui, et c'est aussi une raison, je pense, qui n'a pas fait que mon salariat a fonctionné. Parce que en salariat, tu dois rester en bureau, mais en tant que personne créative, tu as besoin de t'inspirer lié avec ce processus créatif que tu as. Moi, mon processus créatif, c'est vraiment de chercher des inspirations à travers ce que je peux voir, ce que je peux toucher à l'extérieur. Que ce soit même par exemple, quand j'ai besoin d'une idée, j'écoute juste de la musique et j'essaie de créer genre un scénario dans ma tête de ce que je pourrais faire à partir de ce qu'on me demande ou juste n'importe quelle inspiration que je pourrais avoir. Et c'est après en fait que j'arrive à faire un mood board de comment, quelle matière, quelle forme, quel mode de couture, etc. je pourrais utiliser.
D'accord, c'est très clair. Et toi, est-ce que, par exemple, est-ce que d'abord tu es une grande consommatrice de mode? Est-ce que c'est quelque chose que tu où tu consommes avec modération?
Je dirais que ma garde-robe est faite de seconde main. Je ne suis pas vraiment dans le mode. Dans le luxe, Gucci, Chanel et tout ça. Mais j'aime vraiment utiliser ce qui existe déjà pour en faire quelque chose de nouveau. Je ne suis pas très fashion, je dirais.
Et du coup, quel est ton regard sur, par exemple, depuis quelques années maintenant, et aujourd'hui ça fait beaucoup débat, sur les influenceuses, mode, sur toutes ces femmes et ces hommes d'ailleurs, un peu moins, mais aussi, qui aujourd'hui en font des business en fait, qui partagent leur garde-robe. qui, tu vois, je pense à Léna Situation, à Chiara Ferragni, à Caroline Receveur, qui sont devenues en fait des influenceuses par excellence, qui sont aujourd'hui invitées à des défilés de mode, toutes les Fashion Week, on les voit. Quel est ton regard sur ce type de métier? Est-ce que toi, tu en suis des influenceuses? Et est-ce que toi, tu as eu ce rêve d'en devenir une, ou alors c'était pas du tout ton créneau?
Alors, les influenceuses, déjà, même ici à Madagascar, on a plein qui œuvrent dans le secteur de la mode. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment les influenceuses. Je ne suis pas vraiment. Et je ne suis pas vraiment les tendances aussi. Mais je pense qu'en tant qu'influenceur, c'est bien de pouvoir influencer les gens à consommer. Comment dire ça? À ne pas consommer, je dirais, de la fast fashion qui pollue vraiment notre environnement, et surtout à Madagascar, parce que on sait que tous les restes des vêtements de la fast fashion, ils viennent tous ici en Afrique, et ça pollue vraiment les eaux, ça pollue l'environnement, et en même temps, ça détruit le savoir-faire des Malgaches, ça détruit le savoir-faire traditionnel en termes de création. Et moi, non, je pense pas, j'aime pas vraiment, en fait, j'aime pas vraiment attirer l'attention sur moi. Je pense que c'est pour ça que je ne serai pas une influenceuse, mais même pour avoir créé un compte LinkedIn, c'est qu'on m'a vraiment obligée parce que on m'avait dit que, tu sais, les gens ne savent pas ce que tu fais, même si tu fais un truc génial, les gens, ils ne sauront jamais rien, mais il faut que tu crées au moins un compte LinkedIn. Et c'est à partir de ça, en fait, et même les causes dont je vous défends, les causes de tout travail que je fais, je les partage seulement à travers les pages ou seulement du bouche à oreille, je dirais. Ce que je sais, je dois vraiment travailler mon marketing. Mais oui, je pense que voilà. Tout ce que je
D'accord.
peux dire.
Non, mais c'est très bien d'apporter ce commentaire sur tout ce qui est maintenant les décharges de vêtements à ciel ouvert, etc. Parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup, je dirais sur les 5 dernières années, on en a beaucoup parlé. Il y a des grosses marques comme H&M qui ont lancé des secondes mains ou des reprises de vêtements. Maintenant, on le fait beaucoup aussi chez des marques pour enfants. Okaidi, voilà, bon, c'est des marques, ça c'est une marque française, mais l'idée c'est de aussi montrer que justement les vêtements, au lieu de les jeter ou d'en racheter tout le temps, ben, en fait le pantalon que tu as mis à ton enfant qui avait 6 mois, qu'il a porté une fois, et ben tu peux peut-être le revendre un peu moins cher dans une marque. Donc tu as tout à fait raison de mentionner ça. Parce que c'est très important. Et après, j'aime bien demander ton point de vue sur tout ce qui est influenceuse, parce que aujourd'hui, c'est des métiers qui sont très discutés, très. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas un travail, etc. Mais en même temps, enfin, celles qui réussissent, en tout cas, sont très bien rémunérées et on les voit partout. Donc, je me suis toujours demandé, les gens qui sont dans la mode, est-ce que c'est leur rêve ou pas? Parce qu'au final, elles, ça devient des mannequins ambulants, mais des mannequins un peu. Madame tout le monde, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais du coup, c'est toujours intéressant de partager ton point de vue là-dessus. Et donc, du coup, donc aujourd'hui, tu es toujours fashion designer. Et à côté, tu as lancé Water Yourself. Donc, tu me disais en amont ce que c'était. Mais est-ce que tu peux expliquer comment tu en es venue à créer cette entité, quel est ton rôle là-dessus? Et après, j'aurai plein de questions pour toi sur cette organisation.
Ok. Alors, je pense que ça va être hyper long, hein.
Vas-y, vas-y, et je te couperai si jamais j'ai des questions.
Ok, d'accord. Alors, pour commencer, Water Yourself, déjà, c'est une entreprise à format hybride, c'est-à-dire à but lucratif et non lucratif. Dans la partie à but lucratif, nous offrons des services de counseling, de thérapie, ateliers à des particuliers, des groupes et des entreprises personnalisées selon leurs besoins. Et la partie à but non lucratif s'adresse spécialement aux personnes, plus précisément aux jeunes entre 12 à 25 ans qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psy ou tout simplement de recevoir l'aide dont ils ont besoin, les informations dont ils ont besoin concernant la santé mentale. Alors,
Alors,
oui.
la santé mentale, c'est quoi?
La santé mentale, c'est quoi? C'est une très très bonne question. Alors, je vais te répondre par rapport à ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré. C'est que la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser nos projets, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté.
D'accord. Et toi, ça fait 2 ans et demi que tu as cette entité. Qu'est-ce qui fait que tu es partie dans la santé mentale? Parce que tu es partie d'une carrière, enfin, pas partie, mais tu avais commencé une carrière dans tout ce qui était mode, design, etc. Et d'un coup, tu prends un virage à 180, 360 degrés sur la santé mentale. Comment ça se fait que tu as atterri là-dedans?
Alors, l'histoire est assez longue, mais je vais te la raconter quand même. Alors, au début, c'était par curiosité. C'était encore, je pars sur cette date, c'était en 2016. C'était par curiosité. À l'époque, j'étais plus dans le domaine du développement personnel. J'aimais bien apprendre, lire des livres et tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien entreprendre dans un domaine où je pourrais aider les autres, contribuer à un changement et défendre une cause. Mais c'est seulement vers 2020 qu'en fait, j'ai perdu quelqu'un de très cher et que je suis tombée dans une dépression. Qui a été suivi de crises d'anxiété et d'une anorexie. À l'époque, je ne savais pas c'était quoi une anorexie. Pour moi, je pensais que c'était genre un état naturel, que j'allais jamais avoir d'anorexie de ma vie. J'avais perdu 40 kilos à l'époque et j'allais pas bien du tout. J'allais pas bien du tout. Ma mère, à l'époque, mes proches, ils étaient tous désespérés, ils ne savaient pas quoi faire. Ils me disaient, il faut que tu ailles voir un médecin et tout ça. Et moi, en fait, à l'époque, je ne savais pas que j'allais pas bien. Je ne savais pas du tout que j'allais pas bien, mais je me suis dit, c'est juste une mauvaise passe, ça va passer, ça va passer. Ce n'est pas un problème de santé mentale, arrêtez d'exagérer et tout ça. Comme j'étais vraiment dans le déni, jusqu'à un moment où j'ai rencontré une psychothérapeute. Une psychothérapeute qui est ensuite devenue mon amie. Je lui ai dit, j'ai subi ce traumatisme et j'aimerais pouvoir en parler. Est-ce que je pourrais me recevoir? Elle a dit oui, mais le truc, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de payer pour sa thérapie, pour payer sa
La
session.
session.
Et elle m'avait oui, la session. Et elle m'avait dit, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je sais dessiner, faire des designs. Elle dit, OK, on va faire un échange. Je te prends en plusieurs sessions et tu me fais un design pour une affiche, pour un partage que j'aimerais faire. Alors, je lui ai dit, OK, c'est bon. Et au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître. Elle m'a vraiment, mais vraiment beaucoup aidée. Elle m'a donné les informations nécessaires dont j'avais besoin. Elle m'a accompagnée tout au long. Et c'est là, en fait, que je me suis dit que je pense que j'ai trouvé dans quel domaine je voudrais entreprendre et la cause que je voudrais défendre ici à Madagascar, parce que c'est quelque chose d'encore très tabou, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas et je sais que je ne suis pas la seule à avoir des traumatismes, je sais que je ne suis pas la seule à avoir des crises d'anxiété, à être en dépression et ça s'est confirmé par le nombre de personnes qui par la suite, ont été intéressés par ce projet-là. Alors, la psychothérapeute, au fil du temps, elle est devenue mon amie, même ma meilleure amie actuellement, et je lui ai proposé de commencer le projet avec moi. Elle a dit oui, et au fur et à mesure, on a eu d'autres collaborateurs qui se sont joints à nous, qui se sont joints à nous et qui ont défendu la cause avec nous. On a pu recevoir beaucoup d'aide et beaucoup de soutien récemment. Et je pense que c'est comme ça, oui, que Water Yourself est né.
D'accord. Mais c'est une très belle histoire et merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc du coup, c'est venu de ton expérience d'abord personnelle et aujourd'hui, tu as envie de promouvoir un peu la santé mentale à Mada parce que c'est pas encore assez visible. Ma question, c'est, alors j'en ai plusieurs, mais la première, déjà, tu nous as dit que tes parents étaient pour que tu ailles voir un psy, pour que tu ailles te faire aider. C'est assez rare, de mon expérience en tout cas, hein, que des parents malgaches acceptent qu'on aille voir un psy. Est-ce que peut-être que je me trompe, mais est-ce que toi, parmi ton entourage ou les amis, les parents de tes amis ou d'autres oncles et tantes, etc., est-ce que tu avais l'impression que tout le monde était sur cette même longueur d'onde aussi dans la génération plus âgée?
Non, en effet, tu as vraiment, vraiment raison. La santé mentale, c'est vraiment un sujet tabou. Et la plupart du temps, quand il nous arrive quelque chose, on nous demande souvent de nous réfugier dans la religion, ce qui est une bonne chose. Mais la plupart des personnes âgées te diront, bah, si tu es vraiment dans une dépression chronique, soit tu es sûrement possédé ou quelqu'un t'a jeté un sort ou toutes les croyances qu'il peut y avoir derrière. Et en effet, pour moi aussi également, c'était assez surprenant pour moi d'avoir mes proches qui me soutenaient dans cette démarche-là. Par rapport aux amis et aux entourages, au début, c'était quelque chose que je gardais secret. C'est pas quelque chose que j'allais crier sur tous les toits, que je vois un psy, que je parle à un psy. Mais maintenant, c'est vraiment ça que j'essaie de faire, c'est de changer la manière dont on communique et la perception d'aller recevoir des soins, sur la santé mentale.
Et tout à l'heure, tu nous disais que finalement, c'était quelque chose de tabou, mais en fait, il y en a plein, entre guillemets, plein, qui en ont besoin. Après, j'imagine, c'est à différentes échelles, parce que donc toi, tu as fait une grosse dépression, donc j'imagine que tu avais vraiment besoin de quelqu'un spécialisé, qui te suive régulièrement, etc. Est-ce que ça existe aussi à moindre échelle d'avoir besoin de se faire aider, de se faire accompagner, mais parce que, par exemple, tu disais tout à l'heure qu'on n'arrive pas à faire face à des crises d'anxiété.
Oui, c'est vrai. En fait, selon les récentes statistiques, 41% de la population à Tana déjà aurait des troubles mentaux à différentes échelles, à différents niveaux, comme tu l'avais dit. Et malgré ce chiffre alarmant, ça reste un sujet quand même tabou à Madagascar. Les gens n'osent pas en parler, les gens, ils ont honte d'être diagnostiqués. Pourtant, ce chiffre ne cesse d'augmenter et comme nous avons pu récemment voir l'augmentation des taux de suicide chez les jeunes, de plus en plus de personnes se réfugient dans des substances comme la drogue et les comportements toxiques et abusifs sur eux-mêmes ou envers les autres. Et en fait, c'est vraiment pour cela, à Water Yourself, hein, qu'on cible les personnes dès leur plus jeune âge pour les enseigner, leur donner les ressources et les informations nécessaires sur ce sujet afin de créer un changement dans la communication et dans la perception de la santé mentale pour cette génération et les générations à venir.
Donc, quand tu disais tout à l'heure, tu visais les 12-25 ans, est-ce que c'est des choses que vous faites avec le cadre scolaire? Est-ce que vous travaillez avec des entités publiques ou c'est des choses que vous faites dans des établissements complètement séparés où les enfants viennent et c'est vous qui êtes les porte-parole sans aucun intermédiaire?
Alors oui, c'est là que nous faisons des descentes en fait dans des établissements éducatifs comme les écoles, les universités, qui veulent bien nous recevoir et qui veulent bien travailler avec nous. Et donc nous leur proposons des activités, par exemple des conférences à thème, des ateliers d'art-thérapie, des séances de partage et des informations qui aideraient à promouvoir la santé mentale.
Et comment y réagissent les enfants 12 ans, on est quand même assez jeune. Comment ils réagissent face aux ateliers? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont sceptiques?
Alors, on essaie à chaque fois, en fait, de faire en sorte que nos programmes soient adaptés à leur âge. On ne va pas leur donner des informations qu'ils ne comprendraient pas. On ne va pas leur parler dans une langue scientifique. Mais on essaie à chaque fois de les apprendre, par exemple, soit par des jeux, soit par des dessins, les apprendre à parler de leurs émotions et tout ça. Et jusqu'à présent, je dirais qu'on a eu quand même des retours positifs, même vis-à-vis de leurs parents et des établissements par la suite.
Et à 25 ans, j'imagine que là, par contre, on est plus âgé, on a plus de maturité, on est plus enclin à comprendre si on est, entre guillemets, malade ou pas, ou si on a besoin d'aide ou pas. Est-ce que là, si par exemple, quelqu'un, suite à un atelier, à 25 ans, nécessite de l'aide ou nécessite de l'assistance ou quelque chose, est-ce que vous offrez aussi ces services-là?
Oui, effectivement, nous offrons ces services-là. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Mais oui.
Et là, du coup, c'est particulier. C'est plus des sessions de groupe.
Oui, ça, c'est particulier.
D'accord, d'accord. Et là, donc, ça fait 2 ans que tu es sur ce projet. Quel est ton regard un peu sur les 2 ans avec Water Yourself? Quels étaient en fait tes objectifs il y a 2 ans? 2 ans après, qu'est-ce que tu penses avoir accompli? Qu'est-ce qui te reste à accomplir aussi?
Oui, alors même jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est entreprendre dans une entreprise sociale, c'est vraiment un très très gros challenge, un très très gros challenge, surtout en termes de crédibilité. Je n'ai que 25 ans, même si mes collaborateurs en ont plus, même si les personnes avec qui je travaille, la plupart qui sont des psychologues, des psychothérapeutes qui ont les formations et tout ce qui est nécessaire, je suis souvent celle qui est devant et qui part à la recherche de collaborateurs, de partenaires et tout ça. Ça a été difficile au début pour que les personnes me prennent au sérieux. Mais au fil du temps, je pense que nous avons eu la chance d'avoir été soutenus et nous avons pu nous démarquer. Il reste encore vraiment, vraiment un très, très long chemin à accomplir. Et au cours de ces 2 années, nous avons pu aider plus de 50 personnes et nous espérons vraiment que ce chiffre augmentera en 2024. On essaye d'apporter un changement, mais vraiment petit à petit, petit à petit. Et on espère surtout et toujours ouvert aux collaborations de tout genre, aux partenariats de tout genre, qui permettrait à l'organisme d'évoluer, mais aussi de vraiment permettre aux gens de connaître plus, d'avoir plus accès aux informations, aux ressources et surtout aux soins dont ils auront besoin.
Quand tu dis que vous aviez aidé 50 personnes, ces 50 personnes, c'est suite aux ateliers qui sont venus vers vous pour des sessions particulières, c'est ça?
Quand je dis 50 personnes, c'est des particuliers, des entreprises et également des groupes, mais aussi, oui, les ateliers qu'on fait gratuitement.
D'accord, d'accord. Bon, c'est un beau nombre. C'est bien, c'est un bon début. On te souhaite de continuer. Et j'avais une autre question concernant plutôt les adultes, parce que là on voit que vous vous focalisez beaucoup sur les enfants, peut-être dû aussi à ton expérience que tu as eue plus jeune. Quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait 40% de la population malgache qui était en besoin d'aide pour la santé malade, santé mentale, c'était bien ça, hein?
Oui, oui, c'est ça.
40%, est-ce que tu as l'âge moyen ou pas de cette donnée?
L'âge moyen, je dirais, c'est entre 25 à 40 ans environ, si je ne me trompe pas.
D'accord, bon, on va partir du principe que tu ne te trompes pas. Je te fais entièrement confiance. Du coup, on est sur des personnes qui sont plus âgées.
Est-ce que tu sais aussi dans quel secteur ces gens-là travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'en fait, je te pose ces questions parce que la santé mentale aujourd'hui, tu vois, même en Occident, on en parle beaucoup. Moi, avant, je travaillais dans une entreprise anglophone. On avait même un jour par mois, une après-midi ou un matin offert par l'entreprise pour prendre soin de notre santé mentale. C'était pour pas qu'on fasse trop de surcharge mentale, trop de travail. On avait des week-ends un peu plus longs et c'était offert de façon régulière. On faisait beaucoup aussi on avait beaucoup d'ateliers pour comment apprendre à comprendre que ton cerveau est en surcharge, qu'il faut que tu fasses une pause, pouvoir aussi avoir des moments au travail, mais plutôt de partage et pas forcément que bosser tout le temps. Enfin, voilà, on était vraiment dans un univers où on prenait vraiment soin de la santé mentale de ses collaborateurs et c'était vraiment véhiculé par l'entreprise. Aujourd'hui, à Madagascar, tu disais tout à l'heure que c'était encore quelque chose de tabou. Alors oui, dans la culture, c'est sûr que c'est quelque chose vraiment de tabou. Et même, enfin, tu vois, même moi qui suis issue de la diaspora, je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, les entreprises, quel est leur regard là-dessus? Parce que tu as quand même quelques entreprises qui viennent vers vous. Est-ce que tu sens que c'est en train de changer à vitesse grand V, ou alors c'est encore... encore très lent et très long?
Je dirais que ça commence à changer petit à petit. Je dirais que dans les prochaines années, je pense que les grandes entreprises prendront également cette disposition, en fait, de valoriser la santé mentale de leurs employés. Par exemple, les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, ils donnent en fait cette... comment dire ils valorisent, je dirais, ils prennent le temps de valoriser la santé mentale, surtout en fait quand on leur explique les bienfaits du partage, les bienfaits d'aider en fait leurs employés qui pourront en fait contribuer à leur productivité dans leurs tâches. Et là, en fait, oui, ils sont intéressés et ils veulent bien travailler avec nous sur ce sujet-là. Oui, je dirais que ça commence petit à petit.
D'accord. Bon, on est sur une bonne lancée. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander. Aujourd'hui, vous œuvrez où principalement?
On œuvre principalement à Tana. Pour l'instant, on est juste à Tana.
Et vous avez le projet de grandir et de pouvoir être ouvert aussi dans d'autres villes sur le court terme, moyen terme?
Sur le court terme, pour l'instant, je dirais qu'on sera, on restera à Tana, mais on espère dans les prochaines années, dans les prochaines années, même juste pouvoir ouvrir en fait des centres, mais avoir des représentants dans les autres régions, donner des formations pour que les gens là-bas en fait aussi puissent partager, puissent avoir accès aux informations et aux ressources.
Et est-ce que tu penses que principalement c'est dans les grandes villes que ces besoins se font sentir, ou même en campagne, tu penses qu'il y a ces besoins-là?
Je dirais que selon les récentes statistiques que j'ai pu avoir, à Tana, c'est 41% de la population et à Majanga, c'est 31% de la population. Je dirais qu'il faut encore faire quelques recherches de plus parce qu'on se dit souvent que si les gens ils habitent près de la mer, qu'ils sont dans la nature, pas dans le poids de la ville, sûrement ils auront une meilleure santé mentale, un meilleur équilibre de vie, une vie plus saine, loin de tout ça, de tout ce bruit à Tana. Mais je dirais qu'il y a certaines régions où on pourrait quand même... amplifier ou faire entendre plus la valeur de la santé mentale aussi.
D'accord. Et aujourd'hui, Amada, vous êtes les seuls avec ce type d'entreprise, ou est-ce que tu connais aussi d'autres personnes et d'autres entreprises qui ont fondé la même chose que toi, qui œuvrent dans le même secteur que toi?
Alors, j'en connais pas beaucoup, mais je sais qu'il y a plusieurs centres à Amada qui aident les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Je sais aussi qu'il y a, par exemple, l'association Oumine, Récemment, j'ai découvert Psychose. Oui, je pense qu'on commence en fait vraiment à plus parler ouvertement, que ce soit du terme des émotions et tout ça. Ça commence petit à petit à, à se propager ici à Tana.
D'accord. Non, mais c'est bien, c'est bon signe. Si vous êtes plusieurs sur le créneau, c'est qu'il y a un besoin aussi. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Ornella. Avant de terminer, je termine avec quelques petites questions d'ordre personnel pour avoir un peu tes goûts, tes envies, ton regard sur Madagascar. Est-ce que tu es prête?
Oh oui, d'accord.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré à Madagascar, je dirais que c'est à Diego.
Ton plat
C'est
malgache préféré?
mon plat malgache préféré, c'est le Tsaramaso Naksou.
Ton plus beau souvenir à Madagascar?
Mon plus beau souvenir à Madagascar, c'était lors de mes vacances, lors des vacances que je faisais quand j'étais petite, dans la campagne, dans la Cambrousse de la région de Diego, avec ma famille.
Wow. Et pour terminer, Mamten
Oui.
Gazmo Ornella. Afaka message et non, mira wanyu la mienonti podcasti malabar. Oui, nanti non tenen amni génération future, na génération nyu la mienonti podcasti, oui, inan message non, mumbani. Water yourself, Madagascar, c'est nos arènes.
En tout cas, ici, message tout que nous arène, un gabon et na, t'es oué, hasam tachem manoufi, hasam tachem mesa, hasam tachem ni manozemet, apfot, en Madagascar, hasam boula a felelo Madagascar, nin ni secteur a missionnant, contribué, amni, qui voir en Madagascar, au fond, ça n'a des merchers, chagrinoué, mais ça va être un peu plus tard, ça va être un tonneau. Quand les fans, les Isiens, ils ont des kills, des killers, ça va être vite un impact, un guise à paix, soit en soit en mais où le pire est un tout vers nous. C'est un
Super.
gars,
Msochapetak. Merci beaucoup Ornella. Merci pour ce partage. Merci pour cette histoire et je te souhaite une très bonne continuation.
merci beaucoup, Samach. Merci à toi pour l'invitation et à très bientôt, je l'espère.
À bientôt.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Simbach Rappé Farnoucci. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, Velum!